Vous écoutez l'épisode 009 avec mon invité Mathieu Raymond. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Bonjour tout le monde. Premièrement, je vous remercierai jamais assez d'écouter le podcast. Je suis super content d'être ici, malgré la petite pause. Pour ceux qui voyagent dans le temps, ils ne le savent pas, mais ça fait déjà plus d'un mois que j'ai pas lancé d'épisode, même un mois et demi. J'aimerais commencer par remercier un auditeur qui est Michaud Roy du Nouveau-Brunswick. En fait, c'est moi qui l'ai contacté pour une entrevue de podcast et depuis, il est un super auditeur, il les a tous écoutés, il me suit et c'est un petit peu grâce à lui si aujourd'hui je prends le temps de faire l'épisode du podcast. C'est pas toujours évident de trouver le temps avec tous les tracas personnels, la job, les enfants, durant l'hiver, la grippe. Merci Michaud, merci de ta confiance, merci de me supporter, donc il m'a vraiment beaucoup encouragé. D'ailleurs, Michaud fait partie du Cardiac Athlete Group, qui est un groupe qui aide les cardiaques à les gens avec des maladies de cœur, en fait, à retourner au sport ou commencer le sport. Il va probablement venir nous parler de son parcours, comment que malgré ses problèmes cardiaques, il a réussi à faire le marathon et plusieurs autres courses. Il a même des podiums à son actif. Et aussi, comment le groupe peut aider les gens de votre entourage qui voudraient se remettre au sport malgré des problèmes cardiaques. Maintenant, aujourd'hui, mon invité, c'est Mathieu Raymond. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fondateur de la compagnie MathSport. Beaucoup de gens dans le monde de la course connaissent MathSport, connaissent Mathieu Raymond puisqu'il est vraiment la tête d'affiche. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, dont je ne savais pas avant ma rencontre, c'est que Mathieu, c'est aussi un coureur, il a fait de l'athlétisme, il a une fiche assez incroyable au niveau canadien. C'est bien spécial, il a fait un test, le test Graham, et à l'époque qu'il a fait le test, ils ont comparé avec les données du meilleur coureur de 800 mètres. Il avait exactement la même technique de course, il était juste plus petit, il va nous en parler pendant le podcast. Donc, c'est la partie 1 de notre entrevue, je dirais, où on va parler beaucoup de son parcours de coureur, comment il aimait ça, qu'est-ce qu'il a fait. On va parler un petit peu aussi sa famille, il y a beaucoup de coureurs dans sa famille, dont son frère Benjamin, qui est toujours de haut niveau aujourd'hui. Donc, on va parler de tout ça. On va aussi parler de comment son secret, je ne vais pas dire son secret, mais je vais dire sa recette pour qu'il ne se soit jamais blessé dans toute sa carrière, qui a quand même été assez longue. Et le prochain épisode, on va s'occuper de MathSport, donc le côté chaussures, comment ça a parti et tout. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment Mathieu Raymond, le coureur, qu'on interview. Il va nous parler aussi. En parallèle, veut, veut pas, il va parler un petit peu de chaussures, mais sans vraiment axer sur MathSport. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez rester au courant du développement du podcast ou si vous voulez communiquer avec nous, il y a la page Facebook au facebook.com/coureur.io. Il y a notre infolettre que vous pouvez vous inscrire au coureur.io, ainsi que vous pouvez tout simplement m'envoyer un courriel si vous aimeriez entendre des conseils, si vous avez des demandes spéciales ou des jeunes conseillers qui feraient de bons invités au allo@coureur.io. Sur ce, je vous souhaite une bonne entrevue avec notre invité Mathieu Raymond. Bonjour Mathieu. Premièrement, merci de nous recevoir à ton entreprise MathSport.
C'est un plaisir. Franchement, c'est tout un honneur. C'est le fun.
Cool. Je vais commencer tout de suite. Ma première question, c'est comment tu as commencé à courir? C'était quoi tes débuts? Comment tu as pris la passion pour... je t'ai introduit avant le podcast en intro, mais comment tu as attrapé la passion de la course? C'est familial? Comment ça a parti?
C'est vraiment très drôle parce que l'athlétisme, c'est un sport qui est à développement tardif. Donc, idéalement, tu te spécialises pas là-dedans très jeune ou du moins, tu touches un paquet d'épreuves avant d'avoir une quinzaine d'années. Là, un sprinteur ou un demi-fondeur, tu peux avoir des tendances, mais idéalement, tu touches à d'autres choses. Ça te rend plus fort, tout ça. Moi, j'ai commencé parce que j'avais mon meilleur chum du primaire. On se connaissait en maternelle parce qu'on était les deux seuls avec des lunettes. Là, fait que c'est nécessairement, on s'est rejoints.
Des chums de Barnick.
Oui, exact. Ben, lui, il faisait de l'athlétisme parce qu'il y avait un frère et une sœur plus vieux qui en faisait. Puis je trouvais ça plate. Il pouvait jamais venir dormir chez nous le vendredi soir parce qu'il y avait un entraînement le samedi matin. Fait que dans ma tête d'enfant, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. Si je fais aussi de l'athlétisme, je vais être en mesure de faire matcher nos voyagements. Fait qu'ils vont pas venir dormir chez nous le vendredi soir. Fait que finalement, c'est jamais arrivé comme ça. Ça n'a pas marché. Mais j'ai commencé l'athlétisme de cette façon-là, vraiment dans le plaisir. Puis bon, dans ma famille, il y avait un background. J'étais pas nécessairement poussé vers ça. Je faisais du soccer, du plongeon, je jouais du violon. Je faisais un paquet d'autres choses. J'avais jamais touché à l'athlétisme. Puis j'avais à peu près 9 ans quand c'est arrivé.
À peu près 9 ans.
Ouais.
Puis est-ce que tu t'entraînais au moins que ton autre ami ou?
Oh oui, oui.
C'est ramassé d'un autre gym, tu l'as plus jamais revu.
Là, non, écoute, à l'époque, on a commencé dans les corridors de l'école Georges Vanier à Laval.
OK.
Fait que, puis ma première compétition, il y a une histoire aussi qui vient avec ça, mais c'est plein de petites choses qui font que j'ai jamais abandonné non plus. J'étais pas particulièrement bon, surtout jeune. Puis j'ai toujours été régulier, je me suis amélioré à toutes les années, puis j'ai atteint le niveau
toujours,
que j'ai atteint.
Toujours une constance, ouais. Comme plus technicien.
J'étais pas le coureur qui avait un pic de performance de fou dans l'année, puis que le reste de ses performances était moyenne. J'étais plus tout le temps égal. Fait que tu savais à quoi t'attendre avec moi.
Okay. Puis tu l'as toujours amélioré au fil du temps.
À chaque année, il y avait une amélioration, mais par exemple, si une année, je faisais 1 minute 52 ou 800, ben, je pouvais faire une 51, une 53, mais je faisais pas une 49.
OK. C'était petit, mais un petit train bon.
C'est ça.
Puis ton anecdote de ta première course, tu m'as piqué la curiosité.
C'était un cross-country à l'Épiphanie. Okay. Fait qu'on est comme à début de saison, mettons, fin octobre. Puis c'est la première fois que je vais en compétition. Puis en plus, mes parents sont pas là. J'y vais avec mon ami en question, Martin, et son frère qui était plus vieux qui nous amène là. Puis là, ben nous, la course des jeunes, c'est la première. On a tout le reste de la journée où on faisait pas grand-chose, puis on est sur une base de plein air. Et là, on décide qu'on est 4-5 de qui on s'entraîne ensemble, qu'on est là, puis on n'a plus rien à faire, on a une dizaine d'années. Puis on décide qu'on s'en va marcher dans le bois, mais on s'est perdu dans le bois. Donc on est rentré dans le bois, il était 10h, on est ressorti, il était 3-4h du matin, tout le monde nous... de l'après-midi.
Okay, ouais,
tout le monde nous cherchait, puis nous autres, on avait parlé un peu.
L'autobus vous attendait dessus.
On était avec un individu, fait que c'était sa voiture, mais lui, il ne pouvait pas partir sans nous. Là.
Non, c'est pas. J'imagine appeler les parents.
Ils
ont fait la course, ils ont fait un bon temps.
Ça fait un certain temps que je puisse repartir de ça à la compétition.
J'imagine. J'ai cherché en vain sur Internet ta fiche, parce que quand on s'est parlé par téléphone, là, tu m'as un petit peu nommé toutes tes exploits et avec fierté. J'aimerais que tu nous fasses un petit tour de ta fiche de coureur slash athlétiste. Les gens connaissent moins Mathieu Raymond en tant que coureur qu'entrepreneur.
En tant que coureur, comme je disais tantôt, j'étais très régulier, autant dans l'entraînement que dans mes performances. Ça a fait en sorte que, dans le fond, ma seule médaille au niveau national a été à 17 ans. J'ai fini 3e ou 800 mètres, puis probablement dans les pires conditions que j'ai jamais couru de toute ma vie au niveau personnel, mais cette journée-là, ça fonctionnait. Puis les autres fois, ben je faisais les finales. Je finissais dans le top 8, top 10 au Canada pendant les 15 années qui ont suivi ou à peu près. Programme Excellence plusieurs années de suite aussi. C'est un programme québécois qui reconnaît les athlètes qui atteignent un certain niveau dans tous les sports. Puis... j'ai des victoires, on va dire, de courses intéressantes, mais pas de niveau national. J'avais pas ce qu'il fallait pour aller à l'international, principalement au niveau de mon énergie personnelle. Je suis quelqu'un qui est toujours dans les projets, j'ai eu 3 business jusqu'à maintenant, puis pour atteindre un niveau international, tu t'entraînes, tu dors, tu manges, tu t'entraînes, tu dors, tu manges, tu fais ça 2-3 fois par jour, tous les jours. Tu peux te permettre évidemment des folies, mais moi, c'est rare que les gens vont travailler physiquement et qu'ils vont performer.
Oui, c'est
ça.
Moi,
je montais des business, j'étais tout le temps à gauche, à droite.
Des business quand même physiques, hein. J'ai lu la première de ton père, là, qui t'a laissé un camion puis il t'a dit, il va livrer.
Ben, écoute, moi, je suis né d'une famille moyenne. Fait que, j'ai jamais manqué de rien, mais mes parents se serraient la ceinture pour nous envoyer à l'école privée. T'sais, c'était, on vivait bien, puis sans plus. Fait que mon père travaillait beaucoup. À un moment donné, ben, quand mon frère rentrait au privé aussi, puis qu'on avait nos deux carrières en athlétisme, ben veux, veux pas, t'as des camps d'entraînement, t'as des frais de compétition, puis ça va vite. Maintenant que je paye pour ma famille,
je comprends que c'est quoi, ouais. Moi aussi, je comprends.
Fait que mon père, il a pas eu le choix, il a eu à avoir comme deux travails, et qui commençait très tôt le matin son emploi régulier, finissait vers 2h l'après-midi, puis de là, il allait faire une run de palettes. Donc, il y avait un camion, un trailer, puis il allait récupérer des palettes de bois. Là. C'est ce qui sert dans le transport de marchandises vers les commerces, vers les industries. Puis, une fois que c'est rendu, par exemple, dans un bureau en gros, ben la palette, il faut qu'elle jette. Fait que moi, mon père avait parti ça, puis ça arrondissait ses fins de mois, puis ça payait nos dépenses d'entraînement, puis ces trucs-là.
Qu'est-ce qui faisait avec les palettes? Excuse-moi, je suis un petit peu curieux.
Dans le fond, souvent la palette arrive en fin de ligne puis est brisée. Okay. Fait que il la récupère. Lui, ce qu'il faisait, c'est que il la mettait sur le trailer, il la mettait sur son terrain, après ça, il la faisait réparer, après ça, il la revendait. Okay. Moi, je pouvais pas faire tout ça. J'allais à l'école temps plein, j'avais des rêves olympiques aussi en termes de course. Fait que moi, ben, j'avais trouvé quelqu'un qui les achetait brisés, pas brisés, qui avait un terrain, qui avait un réparateur. Fait que je faisais juste y amener à lui. Puis des fois, je trouvais un client, puis j'y en achetais, puis je les revendais au client. Je travaillais beaucoup moins fort.
T'as amené ça à un autre niveau quand même.
J'ai pris tout ce qu'il y avait, puis j'ai gardé le camion, le trailer, puis les clients, puis tout le reste, j'ai mis ça de côté.
Sous-traitance. Ou partenariat.
Exactement. C'est
ça. Tu m'as parlé par téléphone d'un test, le test Gram,
ouais.
qui suscite beaucoup de questions à tout le monde. J'en parle. Je suis pas réussi à trouver là-dessus. Donc, ils ont fait un test sur toi, grosso modo, pour examiner ta technique de course. Mm. Et le résultat est assez foudroyant. Tu aurais la meilleure technique de course au monde, ou du moins la même qu'un gagnant au monde.
Ben, à cette époque-là, du moins la conclusion, c'est que j'avais une technique de course qui était en tout point similaire à Rudy Shaw, qui est le détenteur du record du monde aux 800 mètres. Mais j'ai des segments, ça veut dire que mon angle de genou en attaque, mon amplitude par rapport à ma grandeur, le mouvement de mes bras, la fréquence, tout ça est exactement pareil à lui. Mais bon, j'ai les segments un pied plus petit. Donc, c'est vraiment un gars qui est particulièrement grand. Puis, bon, il y a probablement un facteur génétique aussi derrière, là. Mais j'avais la même technique de course. Fait que quand moi, on parle de technique, des drills, des trucs comme ça, c'est sûr que pour moi, c'est pas du chinois. Mais j'ai travaillé avec un entraîneur à l'époque à l'Université Laval là, qui était très focusé là-dessus, Jean-Philippe Morancy, qui est maintenant rendu à Gatineau. Puis, à un moment donné, on faisait des drills, tu sais, les drills communs, là, les A, les B, les C, que presque tous les coureurs connaissent. Pour moi, c'était rendu de la poutine. Un éducatif, techniquement, t'es supposé apprendre avec ça, l'éducatif. Puis moi, j'apprenais plus. Je veux dire, on les avait tellement fait, je les maîtrisais, ça allait. Fait qu'à un moment donné, je l'ai regardé, il me dit... Puis là, c'était trop facile, il y avait pas grand-chose à corriger. Fait qu'il me dit, ah ouais, là, je peux pas te demander de le faire rien que sur un pied. Je l'ai regardé, pourquoi pas? Fait que je me dis, ben, t'as bien raison, pourquoi pas? Puis là, on s'est mis à massacrer ces drills-là, mais ça faisait travailler mon cerveau, ça faisait travailler différemment, je me concentrais sur différents trucs, puis là, j'ai beaucoup progressé. Puis là, à un moment donné, on voulait optimiser ma performance où on en était, puis on avait plusieurs options. On a décidé de regarder du côté technique de la chose, parce que l'université, avec le conseil de sport de haut niveau, nous donnait l'opportunité de financer cette recherche-là. Ça coûte quand même entre 5 et 10 000 là, pour l'analyse, la prise de données, puis tout ça. Puis le test, il consistait à un gyroscope que j'avais sur moi en avant et dans le dos. Ça prenait mon saut, mon ballon. Ça prenait comme 3 X, Y, Z, finalement, de mon torse. Puis c'était sur un 600 mètres à bloc, donc le plus vite que je pouvais sur une piste de 200 mètres à l'intérieur. Puis sur une période d'à peu près 30 mètres, il prenait une vidéo en je sais pas combien d'images par seconde pour décortiquer chacun des mouvements que je faisais, pour voir s'il y avait un défaut dans ma technique. Puis le résultat, c'est celui qu'on a dit tantôt.
OK. Ouais. Une technique parfaite. Puis si, mettons, est-ce que c'est un test qui est possible de passer, mettons, quelqu'un de riche qui court, qui veut comme vraiment
se comparer? Je pense que oui. Je pense pas que ce soit quelque chose qui est facile à trouver, mais le Gram, G-R-A-M-M-E, c'était le programme à l'époque à l'Université Laval qui l'offrait. Il doit en avoir aussi dans les autres universités. C'est vraiment la science du mouvement. Okay. Mais assurément que c'est quelque chose qui est possible de trouver, mais c'est extrêmement exigeant comme test. Ouais, moi, on l'avait fait sur 600 mètres parce que mon épreuve était là, autour du 800, mais c'est vraiment exigeant. C'est tough.
OK, c'est tough. On le recommande pas, mais c'est...
Ben, on le recommande pas, je veux dire. Un athlète, techniquement, il est prêt à faire des efforts qui sont extrêmes, mais quelqu'un qui est sédentaire et qui irait faire ce test-là, ben, j'aurais pas de misère à croire qu'il y aurait des malaises. Okay. C'est tough. Okay. C'est un peu comme faire un test de VO2 max quand t'es zéro, hein, ouais. Quand t'es zéro entraîné, tu trouves ça dur. C'est le même principe.
C'est vraiment le 200 mètres, dans le fond, qui est tough à plein.
C'est, ouais, c'est plus, c'est 600 mètres continu.
OK.
Fait que t'as pas d'arrêt à 200 mètres de temps.
Tu continues. Ouais, j'imagine, ça doit être assez rough sur le corps. Plus rough qu'une compétition.
Oui, parce qu'en plus, tu sais que là, c'est là qu'ils prennent la donnée. Ils recommencent pas. Fait que tu veux être à ton meilleur. Tu veux, à un moment donné, quand t'arrives après 400 mètres, là, c'est dur de garder une belle technique, là.
Ouais, j'imagine. C'est, voilà. Puis c'est-tu pesant, les gyroscopes, ou?
C'est un peu encombrant. Je veux dire, c'est des straps, je sais pas comment l'expliquer là verbalement, mais c'est vraiment, c'est collé sur ton corps, c'est fait pour prendre vraiment le mouvement, fait que ça peut pas bouger, ça bouge avec toi. Puis ouais. Tu sais, ça compresse un peu ton chest nécessairement, fait que quand tu respires, surtout quand t'es en capacité maximale, ben ta cage thoracique elle bouge beaucoup, puis c'est un petit peu encombrant,
ça
mais sinon c'est correct.
D'aller au maximum.
Ouais.
C'est un peu comme le feeling d'une veste par balle, j'imagine. Ou... Je n'ai jamais porté.
Ouais, non,
là,
c'est plus une ceinture avec vraiment un petit bidule au centre. Puis tu sais, t'as des sensors sur les jambes du côté de la caméra. Fait que d'un bord c'est à l'intérieur, de l'autre bord c'est à l'extérieur. Fait que comme ça, ils voient vraiment le mouvement. Parce que le même âge que je pourrais te donner, c'est on voit des fois comment ils font les mouvements dans les jeux vidéo là, mm-hmm. pour rendre ça réaliste. C'est un peu le même principe, mais pour la course, c'est aussi le décortique en analysant les vidéos qui existent des meilleurs coureurs au monde.
OK.
Puis ils font l'analyse entre les deux.
Ils comparent. OK.
Ouais. Fait que l'angle de ma jambe, l'angle de mes bras, ma position, mon inclinaison du torse, mon impact au sol. Ma distance parcourue en hauteur, qui est celle qu'on souhaite le moins, là, parce qu'on veut avancer vers l'avant. Tout ça était des données qui étaient analysées.
J'imagine, c'est ça, mais c'était cher, mais ça fait déjà un bout que tu as fait ça.
Ouais.
J'imagine que la technologie aujourd'hui doit avoir facilité le...
Mais je pense que le plus dur, c'est pas tant la prise de données, c'est l'analyse au bout. Là.
Sauf que avec les ordinateurs, j'ose espérer qu'avec les ordinateurs, la recherche et tout, ils ont dû beaucoup simplifier...
Probablement.
C'est comme la reconnaissance vocale et tout. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, c'est envoyé sur un serveur, puis ça nous revient, ça nous dit qu'est-ce que c'est. Dans le fond, tu sais, on a de la technologie.
Ouais.
Sûrement qu'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus d'analyse, des mesures manuelles et
ouais, là, je peux pas parler pour les scientifiques, ouais, mais oui. Ce que je me rappelle, la difficulté, c'est qu'il y a pas de données sur ces gars-là.
Okay.
Fait tu sais, les miennes, ça va. Je veux dire, on a tous les capteurs, puis ça se fait bien. Mais le reste, c'est que t'as une vidéo YouTube, puis t'analyses ce que tu vois. Fait que t'as des prises de vue, tu vas chercher ton angle, des trucs comme ça. C'est eux qui sont difficiles à avoir pour comparer.
C'est la comparaison. C'est pas de la personne,
ouais, c'est
plus
ça.
La comparaison. J'ai aussi vu, on a parlé de tes entreprises, de tes trois entreprises. J'ai vu qu'à un moment donné, t'as organisé le défi Viking le temps que t'étais à l'école.
Ouais.
OK. Premièrement, c'est quoi le défi Viking pour ceux qui nous écoutent?
Ben, dans le fond, pour commencer, la compagnie de palettes, c'était un à côté, dans le sens où j'étais tout seul, je faisais mes affaires, puis j'organisais mon horaire. Puis là, ça, j'étais allé vivre à Québec. J'ai fait mon bac en admin, donc là, j'avais déjà un petit peu de connaissances, mais je savais que je voulais partir une compagnie du type Matsport après, puis il me manquait un bout. Okay. J'avais jamais géré d'employé, j'avais pas géré une clientèle non plus. Je veux dire, c'était quand même basic ce que je faisais avant. Fait que je voulais faire les dents sur autre chose. Et là, j'ai vu les courses à obstacles aux États-Unis, à quel point c'était complètement hallucinant. Je sais pas si tu te rappelles, à peu près en 2011, à quel point les gens se promenaient des casques de vikings sur la tête, puis ils mangeaient des pilons de dinde parce que c'est plus gros, puis ils sautaient dans la boîte. Puis, c'était vraiment la course de l'heure, puis il y avait des rassemblements de 5-10 000 personnes faciles. Puis je me suis dit, la prochaine étape, c'est que ça s'en vient au Canada. C'est sûr, sûr, sûr. Puis quand j'ai décidé de lancer le projet, on était les seuls au Canada à avoir ça. Après ça, l'année suivante, il y en a eu 5, puis 2 ans après, il y en avait 30, puis aujourd'hui, il y en a 200 000, ça finit plus.
Aujourd'hui, chaque ville a sa course à obstacles.
Exact, puis des fois, il y en a plus qu'une dans l'année. Là. Comme à Québec, là, j'ai décidé de lancer ça. Aussitôt qu'on a fini la session, j'ai lancé ça avec une associée là, qui m'a aidé à faire tout le branding. Puis on a monté un peu le concept du défi Viking, qui était un peu calqué sur les autres, mais à très petite échelle. Puis la première édition, on s'est cassé les dents. C'était, on a vraiment eu toutes les misères du monde. Heureusement, on avait une compagnie d'événementiel qui s'était associée avec nous autres, une mise en contact qu'on avait, puis qui nous a aidé à pas faire, à faire en sorte que personne meure.
OK, c'est à ce point-là. Là,
oui, on a eu de la misère. On a eu beaucoup de misère.
C'est quoi les misères qui ont été rencontrées? Ça m'intéresse un petit peu.
Mon Dieu. Dans les misères qu'on a eues, il y a eu... on passait dans un ruisseau, puis la montagne, on est allé au Mont-Saint-Anne, puis le Mont-Saint-Anne, on leur a présenté ça, ils connaissaient pas ça, on a signé une exclusivité, puis c'est ça qui nous a sauvés pendant, pendant 3 ans après. Mais là, ils nous ont dit, OK, vous passez dans la rivière, je me souviens plus de son nom, là, mais elle est toujours à sec. Quand vous arrivez en septembre, là, tout est à sec, faites-vous-en pas, puis toute l'année, je vais faire mes parcours, je vais sur le terrain, il y a un pied d'eau, ça ne dépasse jamais mon genou, il n'y a pas de problème. Parfait. Et là, en septembre, comme fin août, la saison des ouragans aux États-Unis, ça finit par s'en venir ici. Et là, on a eu les restes de Katrina la veille. On montait les obstacles et il y avait le déluge. Et là, évidemment, toute l'eau de la vallée de Mont-Saint-Anne se ramasse dans cette rivière-là, qui est la Jean-Larose, je pense.
Okay.
Puis, il y avait de l'eau, là, mais de l'eau, là. Les gars de 6 pieds ne touchaient pas à terre, mais c'était une rivière, tu sais.
Il y a du courant,
mais j'ai pas le choix de passer par là. Je suis obligé, mais là, il y a un pied d'eau. J'avais pas prévu de sauveteur. Fait que là, finalement, j'ai trouvé les sauveteurs, puis on était correct. Les gens ont passé, mais il y en a 2 ou 3 qui se sont fait récupérer le sauveteur parce qu'ils partaient au courant. Fait que, il y a eu ça. Puis il y avait quelqu'un qui nous avait écrit, que je connaissais pas, qui était un client, qui nous avait écrit, dit, moi, j'ai peur de l'eau. Je vois dans la description qu'il y a du feu, qu'un paquet d'affaires et de l'eau. C'est quoi l'eau qu'il y a? Et là, je me base sur la montagne, puis je dis, ben, il va avoir à peu près un pied d'eau sur 4-5 pieds de large, puis c'est ça l'eau que tu vas avoir, rien de plus. Là, il arrive à ça. C'est son premier obstacle. Il aurait pu virer de bord, là, mais il a décidé qu'il continuait. Puis il a fini la course. Il l'a tout fait. Mais la première chose qu'il a faite, il n'a pas passé une arrivée, mais il m'a enligné direct.
Il a dit, c'est toi, ça.
Puis là, il s'est mis à m'engueuler. Là, je voyais un tas de choc, puis je l'ai amené à l'équipe de secouristes. Là, ils l'ont calmé. Puis là, on s'est approché de l'espèce de gros stage en bois massif. Puis là, il m'a demandé de le rembourser. Je fais, ben écoute, oui, tu sais, je veux dire, regarde, à un moment donné, question de crise, je suis pas 80$ pour ma vie. Là, ça. Fait que... Il m'a dit merci, j'ai redonné, puis il a tapé là avec son à côté de ma face, mais sur le gros beam en chaîne. J'ai vraiment eu peur. Okay. Il a frappé avec son poing, là, j'ai eu peur. Puis ensuite, parti, je n'ai plus jamais entendu parler.
Okay. Il m'a dit comme ça, il aurait pu revirer de bord.
Ben,
j'ai
remboursé de toute façon.
Oh, oui, c'est ça. Mais c'est un vrai viking.
Ouais, c'est un vrai viking.
Il a traversé l'eau, il a conquis sa peur. Puis,
ben, parlant de vrai viking, l'année d'après, on s'est mis à faire des petites infopubs sur les vikings. Mm-hmm. C'est quand même une société qui est pas super bien connue. Puis l'information qui est véhiculée est pas tout le temps acceptée. Et là, il y a un monsieur qui s'est mis à nous tirer des tomates sur les réseaux sociaux parce qu'il était pas d'accord avec les facts qu'on donnait sur les vikings.
Puis c'était quoi? C'était un historien ou c'était un...
Je sais pas, je suis plus, mais il parlait avec... Il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Moi, j'avais acheté un livre sur les vikings puis je sortais des infos que je trouvais dans le livre, là, je veux dire.
Ouais, puis aussi, c'est à la limite, c'est une course thématique.
Là, exactement. On avait avant la file d'arrivée, c'était pas mal ça. Là.
On n'est pas là pour faire un cours d'histoire puis d'éduquer les gens. Ça. L'idée, c'est vraiment d'aller en barbare.
Mais surtout, tu sais, en 2011, 12, 13, c'est les années où j'ai organisé cette course-là. On a fini avec 1200 participants la troisième année. On était vraiment contents. On a appris beaucoup de choses. Puis c'est là où je me sentais plus d'attaque pour affronter un projet comme Matsport.
OK.
Fait que j'ai eu l'opportunité de pouvoir vendre la course à un groupe. Puis finalement, ben, avec cet argent-là, j'ai parti Matsport. Fait que ça s'est bien fait dans le timing. Mais j'ai énormément appris, dont sur la gestion des réseaux sociaux.
Oui. Et de l'information qu'on véhicule.
Ben, c'est les gens réalisent pas le pouvoir nécessairement qu'ils ont avec ça. Puis c'est parfois justifié, mais pas toujours. Puis il y a des fois où tu pourrais juste écrire en privé et dire, tu sais, je suis pas d'accord avec ça. OK, merci de l'information, plutôt que de le faire at large. C'est là où, à un moment donné, il y a le pouvoir des réseaux, mais il y a aussi la contrepartie.
C'est certain, mais généralement, ça se place tout le temps. Là.
Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus éduqués aussi à ce niveau-là. Ils comprennent un peu plus l'impact qu'ils ont sur les entreprises, surtout l'entreprise québécoise. Je veux dire, une multinationale va s'en remettre. C'est pas, ça, c'est bien difficile de faire, les faire tomber. Mais nous autres, c'est sûr que le cash flow, il est sensible. C'est sûr que on n'est pas à grand-chose d'avoir une bad luck. Je veux dire, nos ventes sont correctes, ça nous permet de vivre. Mais si on a une drop de 30 %, ça paraît. Là,
ouais.
Okay, alors qu'il y en a d'autres que ça leur passe comme de l'eau sur le dos d'un canard. Fait que aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus conscients de ça. On le voit aussi dans les commentaires. Là, les gens ils sont beaucoup plus posés dans leurs interventions. Il y en a toujours qui sont fâchés, puis c'est correct. Il va toujours en avoir. Mais il y a moins d'absurdité, je trouve, dans les réseaux sociaux qu'il y en avait dans cette époque-là où là c'était le free-for-all.
Ouais, toutes les haters puis les trolls.
Ouais, mais il y en a aussi, je pense, qui ne comprenaient pas qu'ils mettaient ça. Ouais. À vue tout le monde, tu sais.
Comme les matantes sur Facebook.
Exactement.
Hey, salut Jocelyne, comment ça va?
Exactement.
Comment va tes flatulences?
Non.
Puis moi, quand je vais dans des événements comme ça, tu réussis à être... j'imagine que oui, c'est réussi à revendre, mais ça doit être difficile d'être profitable parce que tu parles de 1200 personnes, ouais. 80$ par personne. On a une enveloppe, mais là-dedans, faut que tu déplaces la sécurité, faut que tu fasses les obstacles. Je veux dire, ça prend du monde. On voit des quatre roues, ils montent l'eau dans la montagne. Je veux dire, le bill de dépenses, ça réussit quand même à... Tu sais, je veux pas de chiffres, mais je veux dire, à la fin de
À la fin de l'année, il en reste.
OK, parfait, excellent.
Il en reste. Moi, ce que j'ai vendu, c'est surtout l'exclusivité que j'avais avec la montagne. Il ne pouvait pas avoir d'autres événements, puis je pense que de ce type-là, sur la montagne, par année, puis à chaque année, je renouvelais pour l'année suivante. Puis par le temps où j'ai eu mon offre, ben toutes les autres montagnes étaient avec d'autres brands. Fait que s'ils voulaient s'introduire à Québec, ils n'avaient pas le choix de passer par nous autres parce qu'on était définitivement le plus petit, puis j'avais pas l'intention de faire ça de ma vie non plus. Mais oui, il y a moyen de faire de l'argent avec ça. C'est sûr qu'il faut que tu contrôles tes dépenses. Mais souvent, la montagne, surtout en été, sont beaucoup moins occupés. Fait que ils ont du staff, par exemple, pour eux, c'est le vélo de montagne beaucoup. Fait que le staff est déjà sur place, puis sont contents que tu amènes de la visibilité touristique à la montagne. Fait que leurs gars sont déjà là, fait que c'est eux qui font ton transport en quatre roues. De toute façon, ils ont des ententes syndicales que c'est juste eux autres qui s'en occupent. Fait que tu sais d'avance par personne combien ça va te coûter.
Okay.
Puis après ça, ben c'est sa quantité.
OK.
Fait que non, ça se fait, c'est quand même pas si mal.
Puis j'imagine aussi tous tes kiosques en bas.
Ouais, ça j'avoue que c'est plus complexe. C'est même pour nous autres, maintenant on est du côté plus présentateur qu'organisateur. Puis ça demeure que les gens qui vont là, ils ont déjà payé leur événement. Ils n'ont pas nécessairement leur carte de crédit. Dans notre cas, nous autres, ils veulent pas nécessairement se déchausser. Fait que, oui, il y a de la représentation. Oui, il y a de l'événement. Il y a de la... ça a une certaine valeur, mais ça vaut pas 10 000 piastres.
Non.
Ça vaut une centaine, 200 piastres. Souvent, tu vas leur donner, ils vont te donner des produits. Ça, le client qui a... T'sais, tu fais ton argent avec ton entrée de personne, puis le reste, faut que tu leur offres une expérience. Les business qui font ça, généralement, ça fonctionne.
Okay.
Mais si t'es trop gourmand, ben tes présentateurs viennent pas. Si tes présentateurs viennent pas, ben ton consommateur il vient et il trouve sa plate. Faut vraiment que tu crées une ambiance. Puis une fois que ton ambiance est créée, puis une fois que t'es gros et t'es un incontournable, là tu peux charger.
Ouais, quand t'as la notoriété. Puis quand t'as prouvé une rentabilité aussi, j'imagine.
Ouais, quand
la personne dit je suis allé là, puis ça a été super bon.
Il y avait 3000 personnes, puis les gens ils passent, on a organisé pour que tout le monde soit dans le village des présentations tout le temps. Mais tu sais, ça demeure que c'est extérieur avec s'il pleut.
Ouais.
Tu fais quoi?
Il y a moins de monde.
C'est ça.
Il y en a bien qui ne viennent pas. Toi, tu fais ton argent pareil, mais eux autres, c'est zéro.
C'est ça.
Okay.
Ouais.
Intéressant. En rétrospective, ça a été quoi ton plus gros défi de tes années d'athlétisme? Tu dis que tu as été régulier, mais y a-tu un moment là, que ça a été dur, soit de continuer ou de s'améliorer?
Le plus dur, ça a été d'arrêter.
OK.
Oui. C'est toute ma vie, j'ai jamais été blessé, fait que j'ai pas eu cette période-là difficile où j'écoutais quand même les signaux que mon corps m'envoyait, mais je pense que j'étais au niveau des articulations, au niveau physique, je mangeais bien, je dormais bien, je récupérais, je m'entraînais bien aussi. Quand tu sautes pas d'entraînement, ben le prochain il est pas tellement plus dur, il est juste une petite affaire plus dure. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des excellents coachs. J'ai commencé bon jeune dans mon développement avec Katia qui était vraiment pour nous faire aimer la course, Après ça, assez rapidement, je suis tombé avec mon oncle Louis, qui lui m'a pratiquement élevé dans le milieu de la course à pied jusqu'à temps que j'arrive à l'université. Puis à l'université, j'ai eu la chance d'avoir deux coachs de qualité pendant mon parcours. Fait que j'ai toujours été bien encadré. Mais il arrive un moment donné où, bon, quand t'as fini le circuit universitaire, si t'as pas atteint un niveau international, ça commence à être plus dur pour progresser et avoir des nouvelles compétitions. J'avais pas ce niveau-là. J'ai eu dans les dernières peut-être deux ans d'entraînement, quand j'atteignais un certain volume de qualité en entraînement, je pense que c'était autour de 4000 mètres d'intensité, j'avais les mollets qui crampaient. J'ai essayé un paquet d'affaires, mais mes mollets crampaient tout le temps. Ils claquaient pas, mais ils crampaient. Plus de mollets, ça court un peu mal. Là, je me suis recyclé un petit peu. J'avais moins le temps de m'entraîner parce que je partais ma sport, mais je me suis recyclé en rabbit. Fait que j'étais le gars qui donnait le pace. Parce que comme j'étais régulier, moi, j'embarquais sa ligne, puis tu me disais, passe en 23 ou 200 mètres, pour être sûr que je passais en 23-0. Fait que les gars, ils me suivaient, puis j'ai aidé à faire des records canadiens à d'autres gars qui me suivaient dans des courses. Puis ça, j'ai aimé ça. J'ai fait ça pendant quasiment deux ans. Ça a été comme ma fin de carrière. Puis après ça, ben là, j'ai arrêté parce que j'avais même plus le niveau pour être capable de faire la moitié de la course au rythme que les autres gars que je battais tout le temps faisaient. Ça, j'ai trouvé ça dur.
L'orgueil, j'imagine l'ego, l'orgueil.
Ben, il y a l'orgueil, mais c'est pas le fun. T'sais, fait que là, j'ai ralenti l'entraînement beaucoup. Puis à un moment donné, j'allais courir, puis je restais dans le même coin que quand je m'entraînais plus jeune. Fait que là, je faisais mon même 10 km sur la même route, dans les mêmes conditions. Sauf qu'au lieu de le faire en 38, mettons, puis d'être capable de faire ma journée puis de m'entraîner le soir, puis je le faisais en 52, puis j'avais pour trois jours à m'en remettre. J'ai okay. Pas de fun.
Non, non, je comprends.
Puis là, ben depuis à peu près un an et demi, j'ai recommencé à me remettre en forme tranquillement. J'ai eu un 3 ans vraiment tough que je courais pas ou à peu près pas à cause de ça. Puis là, ben toi, depuis à peu près 2 semaines, là, je vais vraiment bien. Je recommence à avoir des bons feelings. Là, j'aime ça. J'ai recommencé à aimer ça.
Le goût à aimer ouais. Ça.
Mais ça a eu comme un 3-4 ans là où... Ouf.
Ben, c'est, j'imagine ça doit être dur de passer d'un haut niveau à on va courir puis on se sent...
Ben oui, puis veux pas, je veux dire, ma forme compétition puis ma forme aujourd'hui, j'ai plus de rentille. Je veux dire, je suis pas gros. Mais je suis pas racing fit non plus.
C'est ça.
Fait qu'il vient que quand tu repars à courir, ben 30 livres de plus, ça paraît. Là.
C'est 3 poches à patate, tu sais. Des fois, il y en a qui disent « Ah ouais, t'es ouais. Pas gros, mais attends un peu, là. Je vais te faire la même épreuve avec 30 poches à patate dans chaque main, là. »
Exact.
Viens courir à cette heure. C'est va ça. Voir comment tu vas.
Fait que t'es moins en forme, t'es plus pesant, donc c'est plus difficile. Puis t'es habitué d'être super dynamique dans ta technique de course, mais là, tes muscles ils suivent plus parce que tu tombes épuisé dans le temps de le dire. Pendant 3 jours d'en remettre. Ça fait mal quand tu te lèves le matin. C'est toutes des affaires que j'ai pas connues pendant ma carrière. Là. Fait que ça a été plus tard.
Ouais. Je veux juste revenir, je sais que ça fait un bout que tu l'as dit, mais je suis content d'entendre ça, que tu as réussi à jamais te blesser, parce qu'on entend beaucoup d'histoires de coureurs. Ils ont toute une histoire de blessures, des mois d'arrêt et tout. Fait que c'est vraiment... t'es le premier que j'entends qui dit « J'ai couru toute ma vie sans se blesser. »
Il y en a pas beaucoup, effectivement. Il y en a... Mais la recette est tout le temps la même. C'est des gens qui font attention à leur hygiène de vie, qui skippent pas d'entraînement, qui gardent une régularité. T'sais, mettons que tu as 4 entraînements semaine à faire, puis que tu les fais vendredi, samedi, dimanche, lundi, puis que tu fais rien mardi, mercredi, jeudi, ben c'est sûr que quand tu recommences vendredi, ben t'sais, ton corps il est pas prêt à ça. C'est d'avoir une régularité, d'être bien chaussé nécessairement. Puis là, je parle pas de ma paroisse, mais je veux dire,
c'est certain.
Ta chaussure. Faut qu'elle soit adaptée en fonction de comment tu cours ou comment tu l'utilises. Sinon, ben, c'est un peu comme mettre des tailleurs de 21 pouces sur une Honda Civic, ça marche pas.
C'est certain. Moi, c'était le premier conseil. Première fois, j'ai vu un coach de course me regarder les pieds, il dit tes mauvaises chaussures. Tes mauvaises chaussures sont mal attachées, non? Commence bien.
Ouais, ça. Bon, il y en a qui ont une vision sur comment attacher ses souliers que je partage pas nécessairement. Mais la chaussure, la composition de la semelle puis son inclinaison, c'est important.
J'ai vu aussi, tu me corrigeras si je me trompe, je pense que ton frère Benjamin fait de l'athlétisme. Ouais. Je me demandais qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un membre de ta famille dans la même discipline?
Ben, mon frère est 4 ans et demi plus jeune.
OK.
Circonstances des choses, on devait être plus proche, puis finalement, c'est 4 ans et demi de différence. Puis évidemment, ben il a un peu suivi mon exemple pendant plusieurs années, mais âge pour âge, il a toujours été meilleur que moi.
Okay.
Lui, Benjamin, là, ben, il s'appelle Benjamin, mais aussi dans la catégorie, il avait plein de records du Québec, finissait en avance de beaucoup. Puis il a eu plus de succès que moi à l'échelle nationale. Puis encore aujourd'hui, il y a une performance que je détiens qui est meilleure que lui, mais c'est parce que c'est zéro sa spécialité.
OK.
Sur 800 mètres. Mais tout le reste de distance, il me dépasse de beaucoup. Fait que c'est le fun parce qu'il est dans une discipline qui peut se poursuivre après l'université. Lui était plus type long. Moi, j'aimais beaucoup l'intermédiaire, pas le pur rapidité, pas le sprint. Puis pas non plus le pur long, j'haïssais les cross-country.
Okay.
Puis faire en haut de même 1500 mètres, c'était très limite. Là. J'en faisais parce qu'on m'obligeait. Mais j'aimais beaucoup faire du 400-800. Lui, il était tout 1500 en montant. 800, c'était trop court.
Okay.
Fait que c'est le fun parce que là, il poursuit. Fait que il a une belle job pour ça aussi. Il est prof en éducation physique. Fait que il a le temps de continuer à s'entraîner. Il a pas d'enfant non plus, fait que tu sais vraiment il se concentre sur deux choses, son travail puis sa course, puis il performe. Donc ça c'est le fun parce que là il fait la promotion de nos produits, puis je veux dire lui il est fier aussi d'être ambassadeur de la marque de son frère, puis il fait aussi que des fois ben on a le même réseau, on se comprend sur certaines affaires, puis des fois ma conjointe trouve ça plate un peu un souper de famille parce que tout le monde parle de course. Mais
à côté,
elle non, non, mais veut pas, elle devient dans le milieu.
Ça fait elle connaît tous les noms, elle connaît tous les temps.
Ouais, je suis pas sûr qu'elle les replace, mais c'est sûr qu'elle entend parler tout le temps. Fait que non, ça c'est le fun. Puis en même temps, ben, tu sais, je le fais pour des gars comme lui, je le fais pour des gars qui sont sur le divan puis qui veulent commencer à courir. Je le fais vraiment pour ça. Fait que d'avoir des têtes d'affiche qui en plus sont de la famille, ben,
ouais,
c'est sûr
cool.
Que ça donne.
Fait que t'as été un petit peu son modèle, dans le fond. T'as toujours ouais. eu comme quelqu'un qui te suivait.
Ouais.
Quand t'étais jeune, ça te gossait-tu qu'il soit meilleur que toi? Y a-tu des
ben, 4 ans et demi de différence. Il était meilleur que moi, mais pas performance dans la même ouais. journée. Ça m'a jamais vraiment affecté, mais ça a toujours été une compétition saine où lui, il voulait dépasser son grand frère, puis moi, je voulais rien savoir qu'il me dépasse. Je l'ai aidé déjà pour faire un de ses records du Québec. Mais on était trop loin pour qu'il y ait une compétition.
OK, parfait. Puis il y avait pas personne qui vous ramenait, là. T'arrivais pas voir un ancien coach puis dire hey, ton frère là, il est bien meilleur que toi
non,
ou
non non. Ben lui peut-être faudrait lui demander, je pense
lui,
pas.
Lui ça le faisait dire, là, t'es bien meilleur que ton frère.
Mais ouais. En athlétisme, c'est pas du tout la mentalité, tu sais, c'est beaucoup tu as fait ça la dernière fois, on a fait ça comme entraînement, puis en fonction de ce que je perçois comme split en entraînement, je pense que tu vaux ça. Voici comment je pense que tu es capable de le faire. Maintenant, fais-le. Fait que c'est beaucoup centré sur ta performance à toi plutôt que sur celle d'un autre. Puis à un moment donné, il vient où tu te dis, bon, ben lui, il aime beaucoup courir en avant, mais il casse en fin de course. Fait que si c'est une course stratégique, vas-y mollo, puis dépasse-la à la fin. Moi, j'haïs ça, ces courses-là. J'aime pas ça. J'aime mieux quand on donne le meilleur de nous-mêmes puis qu'en bout de ligne, le meilleur coureur va gagner. Mais surtout, en demi-fond, il y a une stratégie qui est là. Puis je peux pas dire que je l'ai jamais utilisé. Ça m'est arrivé de faire des courses stratégiques. Puis ça s'est parfois bien soldé, puis des fois moins. Mais ça fait partie de la game. Mais sinon, autrement, c'est un sport qui est très individuel.
OK. Fait que c'est vraiment, dans le fond, on se bat contre soi-même. Ouais. Je me demandais comment ça se passait d'un milieu familial de...
Oui, mais tu sais, même... tu sais, là, je te parle de compétition ou athlétisme, mais même milieu course sur route, c'est beaucoup d'entraide. C'est suis-moi puis ou go lâche pas t'es capable de faire ça c'est très il va y avoir de l'entraide dans le coureur mais de la confrontation de va chercher celui-là ou bas celui-là c'est j'ai rarement vu ça ça existe sûrement
mais j'imagine d'un premier en avant parce que moi c'est sûr je suis pas d'un premier fait que j'en laisse passer
ben, je vais donner un exemple
100-200 en avant fait que quand t'es tout le monde s'entraide, tout le monde est joyeux, on fait des thumbs up, lâche pas.
Ouais, mais il y a pas si longtemps, il y a eu le 10 km au Parc La Fontaine, là.
Mm-hmm.
C'est
la classique.
La classique, exact, qui est très relevée. Puis à un moment donné, il y a eu un ou deux athlètes qui se sont échappés du groupe. Mais la gang dans le peloton de chasse se sont parlé, puis on dit, prends ton bout, puis on fait chacun, mettons, une minute en avant, puis on tire le pace, puis on va les rechercher. Fait que même dans l'élite, ils vont s'entraider, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ultimement, ils veulent la victoire. Mais ils vont pas penser, je vais battre lui. comprends. Je vais travailler avec lui dans le but de gagner ma course.
Ça va être une frénésie, dans le fond. Là,
c'est ça. Synergie. Sur piste, tu vas avoir un petit peu plus de « Ah, lui, je veux pas qu'il me batte. » Mais ça, c'est pas le coach qui va te dire ça. En tout cas,
okay. Je voulais juste avoir la synergie familiale. On avait vu les trois sœurs aux Olympiques, que le père disait que c'était super cool, les trois s'aidaient et tout. Fait que je me demandais juste s'il y avait une petite guerre ou qu'est-ce qu'il y en
avait. Non.
Ton frère a de l'air très fier de toi, parce que moi, j'ai trouvé des vieux articles de blog de lui puis qui te félicite pour tes victoires.
Donc,
j'ai lu des 2 minutes 30 sur le 1000 mètres. Je ne veux pas me tromper.
J'ai fait 2,25.
2,25, c'est rapide, ça.
J'étais content, tabarouette.
J'ai pas de misère à te voir. Fait que, en tout cas, il y a de l'air bien faire de toi. J'ai une question, retour vers le futur. Donc, dans le fond, j'ai une DeLorean. On embarque dedans ensemble. On choisit le moment qu'on retourne voir Mathieu Raymond, le coureur. Puis on peut lui donner le conseil que tu veux.
Le coureur.
Oui, le coureur. Si jamais, vu que tu t'es pas blessé et que tu as l'air d'avoir un parcours, si tu veux, tu as un conseil à donner à Mathieu, un autre, l'entrepreneur ou peu importe, on peut y aller avec ça aussi. L'idée, c'est vraiment ceux qui nous écoutent, qui apprennent de tes erreurs.
Il y a Jean-Philippe, me disait à un moment donné, si à 32 ans, je sais plus à quel âge qu'il avait, là, je savais où j'avais la confiance que j'ai aujourd'hui dans la vie, je serais autrement un bon athlète. Je pense qu'il a tout à fait raison. Il y a un moment où, bon, c'est sûr que les autres gars autour de toi, il y en a plusieurs qui sont meilleurs ou que tu considères meilleurs. Puis il y a des moves que tu devrais faire que tu fais pas, ou il y a des surplus ou des petites tâches de plus que tu pourrais faire en entraînement que tu fais pas. Puis ultimement, c'est ce qui va séparer le champion de celui qui se classe. Puis le conseil que je me donnerais, ça serait, tu sais, t'as rien qui t'attend chez vous. Là. Je veux dire, ton souper, il va être prêt. Fait que même si tu prends 5-10 minutes de plus pour faire tes étirements, fais-le. C'est le petit extra à fin que des fois, il te tente pas parce que t'as fini ta journée. Là. J'aurais probablement été un meilleur athlète si j'avais fait ça, mais ça aurait probablement pas changé l'issue. J'aurais pas fait des Olympiques plus. J'aurais été un meilleur athlète.
OK.
Ouais.
Fait qu'on prend le 5 minutes de plus pour le bout. C'est un très bon conseil pour moi, je m'étire jamais. Tout le monde m'a dit, prends 5 minutes, étire-toi, je sais pas, je kiffe.
C'est pas tout le monde qui croit en l'étirement, mais au-delà de l'étirement, tu peux quand même avoir une période de récupération. Ça peut être une récupération active, ça peut être faire des petits poids. Moi, je faisais à un moment donné des poids, puis ça développait ma cage thoracique. Je peux pas dire que ça m'a aidé de façon fabuleuse, puis que j'ai vu une différence énorme. Mais ces petits détails-là font en sorte qu'à un moment donné, ça s'accumule, puis ça donne un résultat.
Okay.
Ces petits détails-là, on a souvent tendance à les négliger, fait que le conseil que je donnerais, ça serait ça.
Merci. Maintenant, on est déjà nos questions intervalles. Fait que pour te donner une idée, c'est des questions qu'on répond rapidement. Si tu sens le besoin de développer, tu peux développer, mais c'est surtout, c'est comme la même liste de questions que je pose à tous tes coureurs pour avoir un petit peu leur son de cloche. Fait qu'on court avec ou sans musique?
Sans
musique. Pour la concentration,
pour pouvoir écouter les signaux que ton corps t'envoie. C'est trop facile de mettre la switch off quand t'as de la musique, puis c'est là où tu fais des fractures de stress puis des fascites. Nous en parlons.
Conseil course que tu donnes, que tu peux donner at large?
Apprendre à bien courir avant d'augmenter la vitesse puis le volume.
OK. On fait ça comment?
Idéalement, t'as un entraîneur qui te suit, qui est qualifié puis qui fait des choses comme il faut, mais c'est beaucoup. C'est vraiment d'avoir des gens qui te regardent, parce que c'est extrêmement difficile de se regarder soi-même.
Ouais, c'est clair.
Puis d'avoir une chaussure qui s'adapte à ton ambition de technique de course, ça permet justement de favoriser une bonne technique. Mais c'est difficile, par exemple, de courir avec un cumulus sur la pointe des pieds. Il y a un dénivelé trop gros, la chaussure est trop pesante, trop structurelle. C'est difficile.
OK.
Mais avec un Kinvara ou avec un mat sport adapté, ça se fait.
OK. Ton accessoire indispensable?
Mes running.
C'est clair. Tout le monde répond ça, mais
oui, cool. Ben, tu sais, là, depuis peu, je cours avec une montre GPS, puis j'aime ça, mais je refuse de la regarder pendant que je cours. T'sais. La course, c'est une question d'émotion, c'est une question de sensation. Si tu te coupes de ça, tu vis pas la course. Fait que la seule chose que tu as réellement besoin, c'est tes souliers.
Ton prochain défi?
Écoute, j'ai un secret interne de vouloir éventuellement...
Ça, on aime ça, les secrets. Vas-y, il y a personne qui écoute.
Eh boy, vas-tu vraiment dire ça? Je me peinture dans le mur. Mais j'aimerais ça faire un Ironman bientôt.
OK.
Maintenant, bon, j'ai pas le niveau d'entraînement encore, puis il va falloir que je fasse beaucoup de sacrifices pour y arriver, mais dans les prochaines années, je veux en faire un. Je veux l'essayer.
Tu as déjà nagé, fait du vélo?
Je suis un ancien sauveteur, sauveteur-moniteur de natation. Puis en vélo, je me débrouille bien aussi. J'en fais depuis 2-3 ans. Mais c'est tout ça ensemble.
Oui, les trois.
C'est
ouais,
tout ça ensemble. Il n'y a pas de question que je finisse après le temps. Là. Tu sais, moi.
On profite-tu du podcast pour se donner l'objectif? Quelle année qu'on fait ça?
Eh hey boy. Peut-être dans le prochain podcast. Là, mais pas celle-là, je ne suis pas prêt.
Excellent. T'as-tu une ressource à conseiller, que ce soit un livre, une application? Ça peut être plus large que la course, mettons, l'étirement. Quelque chose que tu aimes utiliser, que tu as lu, un site web? À part ma sport.
Moi, je conseille vraiment un entraîneur. Un entraîneur, un groupe de course, ouais. C'est tellement magique parce que là, la gang t'attend pour aller courir. Fait que la journée que ça te tente pas, tu le sais que si tu y vas pas, tu leur fais perdre 5 minutes parce que eux vont t'attendre. Puis quand tu y vas, ben ça va mieux, ça va plus vite. Des fois, il vente ou il pleut, mais t'es 25 patins à aller courir en même temps quand il pleut puis qu'il fait froid. Tu vas y aller. Fait que le groupe, regroupez-vous. Tu sais, courez pas juste chez vous. C'est la course, c'est aussi collectif.
Parce que moi, c'est sûr, on dit en anglais accountability. Là. Quand t'es un entraîneur, ben c'est sûr que t'as quelque chose à remettre. Tu veux pas en manquer non plus entre tes rendez-vous. Tu veux pas dire ah, j'ai foiré la semaine passée, j'ai rien fait. Excuse-moi, coach. On va courir moins vite aujourd'hui, tu sais, tu peux pas arriver là.
Oui, puis t'as ton groupe aussi qui progresse, fait que si t'en manques trop, ton groupe, t'es suivi plus, là.
C'est ça, exactement.
Fait que non, ça, il y a le bout là où c'était plus difficile, c'est que je courais aussi tout seul parce que j'étais pas particulièrement fier de mes performances. Puis de toute façon, le groupe que je connaissais, il courait ben trop vite pour moi. Fait que ça m'a manqué. Puis là, ben j'ai trouvé une autre façon, mais d'avoir un groupe, c'est magique. C'est vraiment magique.
Je pense en autre. Si on veut te contacter.
Mathieu@matsport.ca. C'est la meilleure façon. Je réponds à tout le monde dans les 24-48 heures.
Cool. Même à moi.
Ben oui.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Dans le but de garder les épisodes du podcast coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. Merci encore une fois, Mathieu. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir reçu à ton entreprise. Merci de m'avoir reçu chez toi pour la deuxième partie qu'on n'a pas écoutée. C'est super que tu aies pris le temps. Je sais que c'est pas évident, que tu as beaucoup de choses en tête avec la famille, l'entreprise, la course, les marathons, les événements. Donc, merci beaucoup. Ça a été super cool de passer du temps avec toi. Pour les auditeurs, j'espère que vous avez aimé cette entrevue. Mathieu est vraiment un gars généreux, un passionné de course. C'est fou tous les conseils qu'ils m'ont donnés. Je veux garder du contenu pour le prochain podcast qu'on a avec lui. Je vous dévoilerai un petit peu plus là-dessus, mais il m'a vraiment super bien conseillé. On voit qu'il connaît ça, que ça fait longtemps, qu'il parle d'expérience aussi, d'expérience à haut niveau, puis ça lui fait plaisir de le faire. C'est pas juste parce que on est des clients ou peu importe, on voit qu'il prend un plaisir à nous expliquer ce qu'il sait sur autant les techniques que les équipements de course en tant que tels. Donc, merci encore une fois, Mathieu. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Gênez-vous pas pour partager, nous envoyer des commentaires, nous demander si vous voulez, si vous avez des sujets, des pain points de course que vous aimeriez que je cherche un invité qui nous parle de ça pour vous aider. Gênez-vous pas à me contacter au allo@commercialcoureur.io. C'est donc le allo@commercialcoureur.io. Sur ce, je vous souhaite une bonne course!